recherches secrets en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Je dis oui à la voie exigeante qui conduit à l'Europe de l'indépendance et de la liberté, et non à la voie de la facilité et du compromis qui mène à l'eurocratie, à l'eurochômage, voire à l'euroviolence.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis la dernière campagne présidentielle française qui a porté à la tête de l'État le seul candidat majeur qui se plaçait ostensiblement sous les couleurs de l'Europe, le débat récurrent sur la construction de l'Union n'a guère perdu de sa virulence. L'approche des élections au Parlement de Strasbourg, qui se tiendront en mai 2019, est vouée à entretenir, sinon à durcir, l'opposition entre europhobes et europhiles, qui est devenue un des clivages structurants de notre vie publique. À vrai dire, et naturellement, il ne s'agit pas d'un affrontement brutalement binaire, et il existe bien des nuances dans le gris, comme dans le rose, on dira peut-être le bleu en pensant au drapeau aux étoiles. J'ai choisi, pour démontrer cette complexité, pour la vérifier, de considérer ce matin, en partant du milieu du 19e siècle, la diversité des courants qui ont porté le refus de l'idée des États-Unis d'Europe, dont Victor Hugo avait célébré avec éclat l'espérance et la lumière. Une diversité dont on n'a pas toujours conscience et qui pourtant renvoie tout droit à la variété des motivations des adversaires du projet européen telles qu'elles se sont retrouvées constamment dans la longue durée d'une extrémité à l'autre de l'échiquier politique et parlementaire. De tous ceux qui ont porté le fer contre le principe d'une unité politique, économique, culturelle ou spirituelle de l'Europe, Bernard Bruntaud, mon invité, professeur à l'université de Rennes 1, propose un recensement détaillé et sagace dans un ouvrage récent. Je gage qu'il se pliera volontiers à notre démarche hebdomadaire du côté des multiples échos qui s'entendent entre le passé et le présent. Et pour commencer, un extrait d'un film de 1961, Le Président, un film d'Henri Verneuil. La scène se passe dans l'hémicycle de la Chambre des députés. Nous sommes dans les années 20.
Messieurs, nous voici arrivés, je pense, au cœur du vrai débat sur un problème qui, nous le savons, préoccupe le gouvernement depuis des mois et plus particulièrement Monsieur le Président du Conseil depuis des années. Le projet de fédération des États-Unis d'Europe. Je vais avoir à formuler de graves réserves. Pour n'être pas très neuve, l'idée de fédération européenne n'en est pas moins généreuse. Généreuse mais utopique. La suppression de l'actuel système douanier, le libre-échange, sont autant de formules qui relèvent du manuel de littérature, mais qui constituent un défi permanent au manuel d'arithmétique élémentaire. Est-ce parce qu'il sera européen que le mètre va devenir extensible? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la tonne de charbon va doubler de volume? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la France augmentera en puissance et en prospérité? Le projet d'union douanière sur lequel le gouvernement nous invite aujourd'hui à voter la confiance est mis en pratique depuis longtemps par les contrebandiers. Mais est-ce une raison suffisante pour l'adopter?
Il dit n'importe quoi.
C'est l'apanage de l'opposition.
Le projet d'union douanière que l'on nous propose aujourd'hui sort comme un lapin d'un chapeau. L'Assemblée n'a pas été tenue au courant des travaux préparatoires. Pourquoi? Eh bien parce que Monsieur le Président du Conseil est parfaitement conscient d'entraîner le pays dans une politique d'aventure. Au nom des bons sentiments, certes. En reprenant les rêves de pacifisme périmés de Genève et de Locarno. Autant de capitulations qui ont amené la France dans l'impasse où elle se trouve. Les pires situations peuvent se justifier par des mots. Pour ma part, je préfère les chiffres. Mais les chiffres ne traduisent pas seulement les fluctuations économiques. Ils s'inscrivent parfois en lettres de sang dans l'histoire d'un pays. Or, je tiens à le dire bien haut. Ce n'est pas pour consentir à l'abandon de la souveraineté nationale que les héros de la plus meurtrière des guerres se sont fait tuer. Ce n'est pas pour une Europe sans frontières que sont tombés 1 500 000 Français parmi les meilleurs.
Bernard Brunetot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reconnu, j'en suis sûr, Bernard Blier qui interprétait Philippe Chalamont dans l'hémicycle. Philippe Chalamont qui a vocation à devenir président du Conseil un jour et a succédé à Émile Beaufort, le président âgé, respecté, discuté, interprété ici par Jean Gabin. Les dialogues sont de Michel Audiard et c'est d'après un roman de Georges Simenon.
C'est l'un des rares films qui portent à l'écran le débat sur l'Europe et où sont présents les thématiques justement de de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'euroscepticisme ou de l'europhobie portée ici par Blier. Alors je suis frappé en écoutant ce discours de la résonance avec les thèmes qui sont ceux du début des années 60 ou de la fin des années 50, au moment où le marché commun se met en place. Il évoque l'union douanière, c'est le marché commun qui effectivement a démarré le 1er janvier 58. Ensuite, il parle d'une idée généreuse, ancienne et utopique. C'est une accusation classique qui est portée effectivement encore à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, et plus encore, bien sûr, dans les années 20, puisque le film est censé se passer dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on évoque Genève et Locarno. Et d'une certaine façon, Jean Gabin, alors dans le film, il porte moustache, il est vieillissant, et c'est brillant.
Clémenceau aussi.
Et avec des allures de Clémenceau. Mais quand même, l'évocation de Locarno, c'est quand même brillant, vous voulez. Et le thème des États-Unis d'Europe. Donc, le film est très parlant, si vous voulez, sur un climat qui est effectivement celui du début des années 60-61. C'est la candidature de la première candidature de la Grande-Bretagne au marché commun. C'est la phase finale d'élaboration de la politique agricole commune qui va commencer en 62. Donc c'est un thème qui parle aux spectateurs français, la naissance de l'Europe économique. Et donc là, nous avons alors un écho peut-être du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale en 1957.
Le film de Henri Verneuil étant de 61.
De 61.
Nous ne sommes pas surpris de voir qu'il y a un rebond entre les années 20 et ces années-là. Nous allons avoir d'ailleurs à considérer ce rebond de près.
Tout à fait, parce que si on se souvient, la fameuse déclaration Schuman de 1950 qui lance la construction européenne, les premières phrases de cette déclaration, c'est de dire il y a 20 ans, nous avons imaginé l'Europe, nous ne l'avons pas faite, il y a eu la guerre. Donc il y a une relation qui est faite dès les années 50, entre le projet avorté de Briand et le projet qui semble réussir en cette fin des années 50.
Rapprochement à la fois du côté des partisans d'une Europe en construction, des États-Unis d'Europe, et du côté de ceux qui s'y opposent. Vous disiez europhobie tout à l'heure, le mot est peut-être anachronique. Il est toujours intéressant de voir quels sont les vocables qui désignent une attitude, un courant, la permanence de comportements politiques ou sociaux.
Oui, il y a une grande diversité de termes qu'il s'agit de bien préciser. Alors, euroscepticisme, c'est un mot qui s'est imposé depuis la fin des années 80 dans les médias, dans l'espace public. Et je crois la meilleure définition qu'on pourrait donner à l'euroscepticisme, c'est s'opposer à l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui ou au marché commun au début des années 60, tel qu'il se fait ou tel qu'elle se fait.
Il n'est pas indifférent d'observer que le mot apparaît pour la première fois dans le Times de Londres, le 11 novembre 1985, soyons précis.
Tout à fait, c'est dans la fraction la plus justement réticente à l'intégration européenne du Parti conservateur qu'on emploie cette expression.
Le mot souverainisme est un peu plus tardif. Il naît dans les années 96-97 du côté des associations qui luttent contre le traité de Maastricht et d'Amsterdam.
Oui, alors c'est emprunté au vocabulaire politique canadien, justement. Et là, il s'agit plus d'une politique, c'est-à-dire on critique la méthode communautaire de l'Europe en visant à rapatrier des portions de souveraineté qui ont été déléguées imprudemment, disent ces hommes, à l'Union européenne. Alors, europhobie, là, ce serait refuser le marché commun, la communauté européenne ou l'Union européenne en tant que telle. C'est une opposition et un refus, si vous voulez, principiel de l'Europe, si on peut. Alors, de l'euroscepticisme soft, on passe effectivement à l'euroscepticisme hard et à l'europhobie. C'est un continuum.
Puisque nous parlions de Victor Hugo tout à l'heure, puisque nous évoquions les origines de cette hostilité à la construction de l'Europe, il faut remonter aux dernières décennies du 19e siècle. Et dès ce moment-là, on s'aperçoit que les courants qui s'opposent à cette espérance d'une unification du continent sont déjà très variés.
Oui, et ils naissent, je dirais, au moment même où naît l'idée européenne, c'est-à-dire, vous évoquiez Victor Hugo et son fameux discours sur les États-Unis d'Europe en 1848-49 à Paris.
Dans l'ambiance du printemps des peuples.
Dans l'ambiance du printemps des peuples, hein, cette idée d'une solidarité transnationale, d'être fraternisation, qui est aussitôt critiquée par Marx et Engels dès 1847, puis ensuite en 1867, encore en 1875, Marx va condamner cette fraternisation bourgeoise, comme il l'appelle, ce pacifisme désuet, si vous voulez, au nom évidemment de principes supérieurs qui sont évidemment la lutte de classe et l'internationalisme prolétarien.
Il craint que le pacifisme détourne les classes populaires de la volonté de créer une révolution. Il dit qu'il ne peut pas y avoir d'Europe avant que la révolution soit faite.
Voilà, que cette idée, que cette utopie les détourne d'un combat majeur qui est celui de l'opposition à la bourgeoisie capitaliste. Mais je dirais qu'il y a autre chose chez Marx, c'est qu'il pense que les conditions d'émergence d'une conscience de classe ouvrière doivent se faire d'abord dans le cadre national, si vous voulez, dans une opposition à une bourgeoisie nationale. Et donc l'État-nation est nécessaire pendant une phase historique et la création des États-Unis d'Europe, eh bien, briserait cette démarche. Donc il y a d'entrée de jeu, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une opposition, là, principielle, à ce pacifisme européen, européiste, tel qu'on va l'appeler à ce moment-là.
D'ailleurs, la division passe à l'intérieur de l'international socialiste. Certain nombre de personnalités éminentes, comme Kautsky, comme Otto Bauer, prennent au contraire parti pour une construction du continent en termes politiques.
Alors, c'est intéressant, c'est qu'on voit que la thématique des États-Unis d'Europe s'insère dans le grand débat de la révision du marxisme de la fin du XIXe siècle, la question du révisionnisme.
Bernstein,
donc Otto Bauer, effectivement, Kautsky, qui vont admettre l'idée de cette fédération républicaine européenne. Et face à cette position révisionniste, l'aile gauche de l'international, en particulier Rosa Luxembourg, et puis bien sûr Lénine au début du XXe siècle, vont condamner cette position qu'ils jugent néfaste par rapport aux priorités du combat internationaliste.
La position de Rosa Luxembourg est intéressante à rappeler, effectivement, parce qu'elle a beaucoup compté dans l'élaboration de cette doctrine qui refuse à la fois l'esprit national et l'idée de construction d'une supernation. Elle écrit ceci contre les partisans d'une construction européenne. Elle écrit que l'idée des États-Unis d'Europe est complètement étrangère au système de pensée, je cite, et à la conscience de classe du prolétariat. Elle ajoute, ce n'est pas la solidarité européenne, mais la solidarité internationale, englobant l'ensemble des continents, des races et des peuples, qui est le fondement du socialisme, au sens marxiste du terme. De la même façon que nous avons toujours combattu le pan-germanisme, le pan-slavisme et le pan-américanisme en tant qu'idées réactionnaires, nous sommes absolument contre l'idée du pan-européanisme. Au fond, c'est une utopie pacifiste pour Rosa Luxembourg qui ne peut être que le masque de l'impérialisme.
Elle condamne le nationalisme d'un côté et le supranationalisme qui, pour elle, est cette fédération des États-Unis d'Europe. Mais il y a un autre élément et que Lénine va développer quelques années plus tard, c'est la réflexion sur l'impérialisme, dans la mesure où une fédération européenne serait une façon de travestir la domination impérialiste sur le monde et en particulier sur l'espace colonial, si vous voulez, de la planète, voire sur les États-Unis.
Un jour peut-être, mais pas avant que tombent les monarchies réactionnaires, etc. Écoutez ce texte de Lénine qui remonte à 1915, donc 2 ans avant sa prise de pouvoir. C'est une lecture de Nathalie Canoui dans La Fabrique de l'Histoire de notre cher Emmanuel Laurentin sur France Culture, le 27 septembre 2017.
Dans le numéro 40 du Social-Démocrate, nous annoncions que la conférence des sections de notre parti à l'étranger avait décidé d'ajourner la question relative au mot d'ordre des États-Unis d'Europe tant que l'aspect économique du problème n'aurait pas été examiné dans la presse. Les débats sur cette question avaient pris à notre conférence un caractère exclusivement politique. Le manifeste du comité central non seulement préconisait les États-Unis républicains d'Europe, mais ils soulignaient tout spécialement que sans le renversement révolutionnaire des monarchies allemandes, autrichiennes et russes, ce mot d'ordre était absurde et mensonger. Mais si le mot d'ordre des États-Unis républicains d'Europe, formulé en liaison avec le renversement révolutionnaire des trois monarchies les plus réactionnaires d'Europe, est absolument inattaquable en tant que mot d'ordre politique, on se heurte encore à une question éminemment importante, celle du contenu et de la portée économique de ce mot d'ordre. Du point de vue des conditions économiques de l'impérialisme, c'est-à-dire de l'exportation des capitaux et du partage du monde par les puissances coloniales avancées et civilisées, les États-Unis d'Europe sont en régime capitaliste, ou bien impossible, ou bien réactionnaire. Le capital est devenu international et monopoliste. Le monde se trouve partagé entre une poignée de grandes puissances, c'est-à-dire de puissances qui s'enrichissent en pillant et en opprimant les nations sans retenue. Et en régime capitaliste, toute autre organisation est impossible. Renoncer aux colonies, aux sphères d'influence, à l'exportation des capitaux? Y songer serait descendre au niveau du curé de campagne qui, tous les dimanches, prêche aux riches la majesté du christianisme et leur recommande de donner aux pauvres, sinon quelques milliards, du moins quelques centaines de roubles par an. Les États-Unis d'Europe en régime capitaliste équivaudraient à une entente pour le partage des colonies. Or, en régime capitaliste, le partage ne peut avoir d'autre base, d'autre principe, que la force.
Lénine, Bernard Brutaux, Lénine avait un peu hésité au début pour fixer sa doctrine, mais assez vite, il l'a définie de la sorte.
Oui, c'est toujours la position par rapport aux révisionnistes qui va l'emporter, puisque dans un premier temps, il admet effectivement que le mot d'ordre politique peut être tactiquement juste s'il s'agit de faire tomber les monarchies réactionnaires européennes. Mais c'est une seconde tactique qui va jouer, bien sûr, c'est celle de délégitimer la position révisionniste en condamnant le mot d'ordre des États-Unis d'Europe qui avait les faveurs de celui-ci. Et nous avons là effectivement un texte célèbre, puisque le texte va faire carrière, d'une certaine façon, tout au long du XXe siècle. Et avec cette fameuse assertion, les États-Unis d'Europe sont ou bien impossibles, ou bien réactionnaires. Impossibles, puisque la logique du capitalisme, son stade suprême, c'est l'impérialisme, et donc la guerre, et donc une entente capitaliste est impossible. Réactionnaire, si malgré tout, une entente se fait provisoirement, elle ne peut qu'étouffer tout projet socialiste en Europe et détourner la classe ouvrière. Donc, c'est un texte qui va faire carrière, et on le verra, par exemple, très récemment, en 2013, un petit opuscule très hostile à l'Union européenne, écrit par six économistes radicaux, disons, de la gauche radicale.
Des économistes atterrés,
fait référence à ce fameux texte de 1915. Et il y a une quinzaine d'années, Georges Lavica, philosophe communiste connu, y faisait référence lui aussi encore. Donc c'est un texte, effectivement, qui va fixer quand même le cadre du rapport du monde communiste à la question européenne tout au long du XXe siècle, puisque ce sera un texte de référence pour le Parti communiste pendant des décennies, évidemment, auparavant.
Vous avez observé aussi l'allusion au curé, supposément suppôt du capitalisme. On trouve déjà, c'est ce qui sent aussi à titre marginal, l'idée d'une Europe vaticane qui serait au service du gros argent.
Oui, parce qu'au XIXe siècle, il y a un courant chrétien qui voit dans l'idée européenne, effectivement, la résurgence de l'unité de la Pax, de la République chrétienne du Moyen-Âge. Donc, effectivement, très logiquement, on voit effectivement apparaître cette condamnation de l'Europe chrétienne, de l'Europe cléricale, et qui va ressurgir avec éclat au début des années 50, hein, lors de l'affaire de la CED avec le thème de l'Europe vaticane, qui n'a jamais totalement quitté le discours critique sur l'Europe. On en a vu encore des exemples il y a quelques années.
C'est le temps, début des années 50, au moment du plan Schuman, où Robert Schuman, démocrate chrétien, rencontre la détermination européenne d'Alcide de Gasperi, également au nom de l'Italie, démocrate chrétien, et d'Adenauer, également démocrate chrétien. D'où l'idée d'une Europe noire.
L'idée d'une Europe donc formulée et construite par la démocratie chrétienne, et derrière, dans l'ombre, peut-être le Vatican, les réseaux chrétiens anticommunistes, hein, qui construiraient effectivement cette Europe. Et le thème de l'Europe vaticane, va surgir effectivement en 1953. Alors là où on s'attend le moins, puisque même si les communistes vont l'utiliser, si les socialistes jacobins vont l'utiliser aussi, l'association, le thème et le mot, l'expression Europe Vaticane, est créé par un démocrate chrétien, un historien, un professeur de Cagnes, Joseph Hour, qui dans un texte célèbre fait l'association entre l'idée européenne et l'idéal du Saint-Empire, hein, cette Europe cléricalo-allemande qui ressurgirait donc des cendres de l'histoire, hein, par le biais de cette démocratie chrétienne agissante.
Il est professeur à Lyon.
À Lyon.
Au lycée du Parc, du côté du Primat des Gaules.
Oui, alors bien sûr, Joseph Hour est membre, est un ancien résistant, fondateur du MRP quand même, démocrate chrétien actif, mais qui partage une culture politique de nature, malgré tout, jacobine, si vous voulez. Récemment, dans un interview au journal Les Échos, Jean-Luc Mélenchon, en décembre dernier, a évoqué une Union européenne qui ressemble beaucoup plus au Saint-Empire romain germanique qu'à la République universelle à laquelle j'aspirais. Donc vous voyez que le thème se perpétue.
Voilà une première catégorie d'opposants dès avant 1914. Il y en a une seconde, évidemment, du côté du nationalisme, qui lui aussi est destiné à avoir une importante descendance. Je pense notamment à la condamnation par l'Action française, toute neuve, celle de Charles Maurras, qui écrit ceci. Au nom de la défense et illustration de la nation française, il écrit « Les relations entre peuples pourront s'accroître par le mouvement naturel de la science, des industries et du commerce. Il ne se formera pas un sentiment international comme il s'est formé des sentiments nationaux. Et ceux qui le croient sont les dupes de la figure géométrique donnée à la succession des faits historiques. » Maurras ajoute « Le genre humain est moins unifié que du temps de Saint-Louis, où toutes les couronnes chrétiennes étaient fédérées sous la tiare. La réforme du XVIe siècle et en conséquence la guerre de 30 ans ont constitué les nationalités comme autant de schismes. Encore subsistait-il une Europe ?» C'est un peu l'Europe de l'humanisme et de la Renaissance. « Depuis la Révolution et l'Empire, c'est toujours Maurras qui parle, il n'est plus d'Europe et le mouvement des nationalités qui a unifié l'Allemagne et l'Italie a décidé ou préparer bien des schismes. » Donc oui, il y a une unité pour l'Allemagne et l'Italie, mais il ne peut pas y avoir d'unité pour l'Europe.
Pour Maurras, c'est donc le texte que vous citez du tout début XXe siècle. Hein, donc la condamnation maurrassienne suit de quelques années en fait le congrès qui s'était tenu à l'École libre des sciences politiques en juin 1900 sur le thème justement des États-Unis d'Europe. Hein, donc c'est une réaction maurrassienne assez immédiate. Pour Maurras et d'ailleurs aussi pour Barrès, il y a une loi historique. Hein, c'est celle de la nation. C'est la loi historique des peuples modernes. C'est la constitution de nation. Et donc à partir de cette loi, la création d'entités supranationales est vue comme tout à fait utopique. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point chez Maurras, fondamental, c'est quand même sa germanophobie. Hein, c'est-à-dire ce qu'on verra apparaître alors lorsqu'il condamnera le projet de Briand en 1930, c'est-à-dire que l'Europe se fera au bénéfice de l'Allemagne. Et donc, c'est une façon de trahir les intérêts nationaux.
Là, c'est un thème très important qui d'ailleurs transcende la diversité des écoles de l'europhobie, oui, puisqu'on la retrouve jusqu'aujourd'hui. Oui. Cela a été le cas avec beaucoup d'éclats, avec le livre de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle
Le Harangue de Bismarck.
De Bismarck, le titre en lui-même, oui, est vraiment parlant. Bismarck, oui, comme l'auteur majeur de l'unité allemande contre la France d'une certaine façon.
Alors c'est un thème qu'on retrouve effectivement en 1930, c'est un thème qu'on voit apparaître à l'époque de la CED, effectivement. Hein.
La CED, c'est-à-dire la tentative avortée en 1954 de faire une union militaire.
Une communauté de défense, hein, où la France, occupée dans ses colonies, eh bien, laisserait une part majoritaire de cette communauté de défense à une armée allemande reconstituée 8 ans après la guerre, ce qui semble tout à fait impensable à de nombreux Français à ce moment-là. Mais le thème de l'Europe allemande, on le retrouvera chez les eurosceptiques britanniques des années 70 et 90, et l'UKIP encore récemment, dans sa campagne United Kingdom Independence Party, hein, le parti qui a porté le Brexit, hein, le projet de Brexit, eh bien, agitera hein, cette thématique d'une Europe allemande, d'un quatrième Reich. Hein. Et donc là, c'est effectivement partagé et chez Maurras, comme effectivement plus tard chez d'autres nationalistes.
Et naturellement, Aristide Briand, lorsqu'il s'efforce de dépasser dans les années 20 comme ministre très durable les affaires étrangères, de dépasser l'hostilité d'un pays à l'autre des deux côtés du Rhin, se trouve une cible spécifique pour ce type de critique. Nous allons restituer sa personnalité, si vous le voulez bien, grâce à la voix en vérité unique de Geneviève Tabouy, qui a été dans les années 30 et jusqu'au début des années de Gaulle, une journaliste éminente de la vie internationale. C'est elle, vous savez, qui à Radio Luxembourg disait toujours « Attendez-vous à savoir ». Mais là, elle parle du passé. Elle avait été très briandiste. Et voilà comment elle évoque deux discours de Briand en 1926 et en 1929 à la Société des Nations.
C'était le 10 septembre 26. Alors, Briand, en petit veston noir et triqué, comme toujours, avec son pantalon en tuyau de poêle, est monté à la tribune en soulevant des tempêtes d'applaudissements. La France et l'Allemagne ensemble collaborent maintenant à l'œuvre de paix. Arrière les canons, les fusils et les mitrailleuses, arrière les voiles de deuil, place à l'arbitrage, à la sécurité et à la paix. Et la séance où Briand, déjà déçu de voir le peu d'enthousiasme que montraient les hommes pour cette Société des Nations, importait les États-Unis d'Europe. Alors, le 5 septembre, lorsqu'il est monté à la tribune, une immense acclamation l'a encore salué. Il a parlé très bas, très lentement, et l'auditoire était frémissant. Et renversant pour la première fois le problème, Briand s'est écrié, c'est en traitant les questions sous l'angle politique que les gouvernements pourront résoudre les problèmes de collaboration économique. Entre les peuples géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, devrait exister un lien fédéral. Alors il a eu là beaucoup de succès, mais après, il avait invité à déjeuner les chefs d'État et les premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères. Et là, ça a été très dramatique, parce qu'il s'est aperçu que les chefs d'État regardaient tous le fond de leur tasse à café. Personne n'a applaudi. Alors il était désespéré. Et en sortant, il y avait le pauvre Benesch qui était à la porte. Oh, qui lui dit, président, il ne faut pas vous décourager, mais c'est un enterrement de première classe, parce que votre essai de fédération européenne vient trop tard ou trop tôt. Trop tard, parce qu'on est à la fin de l'euphorie européenne. Si vous aviez fait ça tout de suite, l'euphorie aurait transporté les gens. Trop tôt, parce que l'Europe n'a pas pris conscience des conséquences terribles que vont avoir toutes les crises économiques. Aujourd'hui, monsieur le président, il n'y a plus de foi pour soulever nations et individus au-dessus de leurs intérêts.
Geneviève Tabouy était interrogée là au micro d'Interactualité le 5 septembre 1969. Il faut peut-être rappeler, Bernard Brunetot, que la pensée de Briand restait un peu floue, puisqu'il parlait d'une sorte de lien fédéral entre des États qui garderaient leur propre, entièrement leur autonomie d'action. C'était un peu un oxymore.
Oui, Briand était un réaliste. Il faut voir qu'il se rallie à l'idée européenne dans le courant des années 20 pour en faire le support de la réconciliation franco-allemande qu'il initie à Locarno en 1925.
Traité de Locarno.
Le traité de Locarno. Et aussi de, comme support de son Europe à la française, si vous voulez, légitimée par le parlementarisme. Donc c'est un réaliste et il doit ménager effectivement les partis politiques français, mais il doit aussi ménager des partenaires européens qu'il veut rallier à son projet pacifiste, et en particulier l'Angleterre, qui pourrait être soupçonneuse sur tout lien justement fédéral trop prononcé et qui la ferait rompre avec son empire. avec le Commonwealth en puissance. Hein. Et donc, le sorte de lien fédéral, cette expression qu'on retient du discours de Briand, exprime effectivement, alors sans doute, l'imprécision de sa pensée, peut-être, sur ce que doit être l'Union européenne de l'époque, mais aussi, je crois, une grande prudence politique par rapport aux partenaires européens qu'il ne faut pas froisser à ce moment-là dans sa démarche pacifiste.
Rappelons que Beneš, dont parle Geneviève Tabouy, est le leader de la Tchécoslovaquie toute neuve et il demeurera longtemps jusqu'au malheureux moment de Munich et jusqu'en 1948.
Tous les petits pays d'Europe centrale et orientale ont applaudi au projet Briandis parce qu'ils y voyaient aussi une forme de protection multilatérale.
Puisque nous évoquons les aspects principalement doctrinaux et intellectuels des controverses autour de la construction d'une Europe unie, il faut rappeler que derrière Briand, il y a des associations, des soutiens, à la fois du côté intellectuel, avec Jacques Rivière, par exemple, ou du côté des industriels, avec l'industriel Mayrisch de Luxembourg, et puis surtout le mouvement de Koudanov-Kalergi, dont il faut dire un mot, Pan-Europa, qui devient la cible de tous ceux qui s'en prennent à l'idée de la construction européenne que nous évoquons ce matin.
Oui, Briand n'est que le porteur d'une idée qui est massivement agitée par des réseaux, des milieux, d'autres personnalités dans les années 1920. L'idée européenne n'a jamais sans doute été aussi populaire d'une certaine façon que dans les années 20, entre 1925 et la mort de Briand en 1932. Effectivement, le mouvement de Koudanov-Kalergi, Pan-Europe, qui est présent dans l'ensemble des pays européens, même en Angleterre, qui a une revue, qui organise des congrès, qui a des experts économiques, est un réseau transnational qui agit un peu comme un groupe de pression. Et Jean Monnet, plus tard, se référera à la stratégie de Koudanov, qui n'hésite pas à démarcher les parlementaires pour faire avancer son idée, et Briand notamment, qui est président d'honneur de Pan-Europe.
Et du même coup, on trouve chez ceux qui sont les adversaires du mouvement, déjà les critiques qui sont exprimées contre Jean Monnet, c'est-à-dire le reproche de vouloir construire l'Europe à partir des élites et non pas en s'appuyant sur des sentiments populaires profonds.
Oui, alors même si sans doute dans ces années 20, l'idée européenne déborde quand même le seul establishment économique ou politique pour rallier un certain nombre de classes intellectuelles notamment et aussi d'anciens combattants. Et à ce titre, on évoquait tout à l'heure le Chalamont dans le fameux film de Verneuil qui disait « les anciens combattants ne sont pas morts pour abandonner la souveraineté nationale ». Beaucoup de porteurs de l'idée européenne sont justement des anciens combattants parce qu'ils y voient effectivement la caution d'une future Europe pacifiée. Alors je voudrais signaler qu'en 1925, la première critique et d'ampleur du projet de Koudanov, de Pan-Europe, qui est tout neuf, vient du parti nazi. C'est la première fois que le parti nazi s'intéresse à la question de l'unité européenne, c'est pour la critiquer comme une idée cosmopolite et juive qui est propulsée par les réseaux de Koudanov. Hitler reviendra là-dessus en 1928 pour recondamner Koudanov dans son fameux second livre, la suite de Mein Kampf qui ne sera jamais publiée, et ensuite Rosenberg enchaînera en 1930.
Ajoutons que dans ces années 20, si importantes dans l'histoire de la construction européenne, rappelons qu'il y a une autre école qui remet en cause la construction de l'Europe, c'est celle qu'on pourrait appeler de la pré-mondialisation. L'idée qu'il est absurde, si on organise la paix entre les peuples, de s'arrêter au niveau de l'Europe. Et je crois qu'on peut s'attarder un instant là-dessus. Par exemple, en étant sensible à ce texte de Henri Lambert en 1932 au Congrès européen de Bâle, c'est une lecture de Nathalie Canoui, là encore dans la Fabrique de l'Histoire du 27 septembre 2017, qui était Henri Lambert?
Alors Henri Lambert était un industriel belge et un pacifiste, militant pacifiste, et qui croit à la Pax Economica, la paix par le libre-échange. Et donc il sera le fondateur, avec l'américain Henri Lafontaine, qui est prix Nobel 1913, de l'International Free Trade League, donc qui porte cette idée de Pax Economica.
J'estime que la fédération politique européenne est non seulement impossible, mais même indésirable. L'unité de l'Europe n'est que géographique. Ethniquement, moralement, culturellement, politiquement, elle est et restera encore longtemps un mythe. Rien qu'un mythe. Toute fédération politique présuppose l'accord et même la concorde entre les nations intéressées. Pour fédérer politiquement, par exemple, la France, l'Allemagne et l'Italie, il faudrait avoir préalablement résolu les questions qui les divisent. Or, celles-ci, exclusivement économiques au fond, ne peuvent trouver qu'une solution économique, spécifiquement la solution libre-échangiste. Mais ceci réalisé, la fédération politique devient inutile et même nuisible. Pourquoi, en effet, dans quel but la vouloir? Serait-ce afin de compliquer les situations et rendre à nouveau la paix précaire, sinon impossible? Ce qu'il faut à l'Europe et au monde entier, ce n'est pas l'union politique des nationalités, mais bien tout au contraire les possibilités fournies à celles-ci de vivre politiquement séparées. Or, pour donner utilement et définitivement satisfaction à leur indomptable et légitime volonté d'indépendance et de liberté mutuelle, la sécurité générale qui résultera de la liberté économique internationale est indispensable. Sous ce régime, il n'y aura plus aucun inconvénient à ce que les nations se subdivisent quasi indéfiniment, parce que d'une part, les marchés de tous les peuples seront mondiaux, et que d'autre part, la puissance militaire sera devenue inutile. L'Europe sera tranquille, heureuse et prospère lorsqu'elle sera composée de quelques centaines de petites démocraties républicaines, libres et indépendantes, vivant sous le régime de la liberté économique et internationale. Les nationalités s'entendront alors facilement et tout naturellement pour constituer une vraie société des nations, fonctionnant avec efficacité. Mais conséquence remarquable, l'esprit nationaliste étroit, jaloux et agressif finira alors par disparaître.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
De ce côté-là, en somme, Bernard Brunteau, on craint que on exauce au niveau de l'Europe les pulsions nationalistes que on avait connues antérieurement et qui avaient abouti à la guerre.
Oui, c'est la peur que une fédération européenne ne nourrisse un supranationalisme. Et donc conduisent à ce que Lambert craint, mais ce que craint aussi l'écrivain Wells, Herbert Wells, une guerre des mondes. Une guerre des mondes, un pan-américanisme contre pan-européisme, contre pan-asiatisme. Donc il y a cette idée que l'Europe, alors sur le plan économique, va fragmenter, fracturer le marché mondial et donc empêcher cette sécurisation, cette pacification générale qui sera permise par une division harmonieuse internationale du travail.
Un chauvinisme qui cette fois-ci se deviendrait continental.
Exactement, un nationalisme continental. Alors c'est l'idée que la solidarité permise par la division internationale du travail en matière économique est supérieure à la continuité géographique pour allier les peuples et les États. Alors c'est une idée qui ne disparaîtra pas, qui sera permanente au sein du libéralisme, alors qui s'explique dans les années 20 parce que nous on vit une petite mondialisation entre 1924 et 1930, hein, où cette idée de solidarité globale, si vous voulez, déjà agitée.
Avec la SDN.
Avec la SDN, effectivement, ceux qui vont promouvoir la SDN se disent l'idée européenne est une idée pénalisante pour la SDN.
La SDN qui a connu des années assez brillantes avant qu'elle se fracasse sur les conséquences
dans
de la guerre.
Dans les années 20, la SDN est une réussite, hein, il faut le rappeler. Alors on retrouvera cette idée que l'Europe fragmentée le monde du libre-échange dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et les premières critiques de la CECA viendront par exemple de la Chambre de commerce international, hein, la CCI, qui considère oui, c'est une idée sympathique, mais c'est une idée qui peut handicaper la création d'un marché plus global. C'est le thème de l'Europe sans rivage, c'est-à-dire le monde, le titre du livre de François Perroux en 1954.
L'économiste François Perroux. Vous évoquez à bon escient Wells, l'auteur de La guerre des mondes et aussi du célébrissime roman qui s'appelait La machine à explorer le temps. Or, pour Wells, l'avènement d'une fédération européenne serait une catastrophe historique parce qu'elle porterait un nouveau chauvinisme à hauteur du continent. Cela ouvrirait simplement un nouveau monstrueux cycle de guerre, l'Europe contre l'Amérique, les jaunes contre les blancs.
Oui, Wells a toujours été un adversaire acharné de Koudenov-Kalergi et des projets briandistes des années 30. Et il sera un adversaire de l'Europe jusqu'à sa mort, après la Seconde Guerre mondiale. On le voit alors dans des œuvres qui sont moins connues, sur le nouvel ordre mondial, vers l'État universel, la paix du monde, toute une série d'ouvrages qui prévoient une sorte de système fonctionnaliste mondialisé. Finalement, le système onusien aurait eu ses faveurs.
Mais avec un effet pacifiant que l'expérience historique n'a pas laissé entrevoir. Ni la SDN sur la durée, ni l'ONU. Je dirais que ces jours-ci, sur l'affaire syrienne, la démonstration est particulièrement éclatante, la démonstration d'une impuissance relative. Alors peut-être faut-il faire un sort brièvement, Bernard Brunteau, à la période du nazisme et du fascisme, voir comment les systèmes totalitaires ont abordé la question de l'Europe. Hitler en parle très tôt dans ses livres, et ensuite il prétend organiser une Europe, mais qui serait une Europe, bien sûr, sous la férule de l'Allemagne, la nouvelle Europe, ce qui n'était pas fait pour séduire la plupart des partisans de la construction du continent.
Alors c'est un sujet très lourd et qu'il faut effectivement déblayer, hein. C'est important parce que il y a dans la thématique europhobe de ces 20-30 dernières années une idée comme quoi l'Union européenne ne ferait que reprendre les plans du Troisième Reich, d'union économique ou politique. Soyons clairs, dès les années 20, Hitler, Rosenberg, si l'on prend les deux principaux évidemment théoriciens du nazisme, condamnent expressément toute forme de fédération de l'Europe, les États-Unis d'Europe, comme une idée juive et cosmopolite, et aussi une idée au service de l'hégémonie française. Donc il y a une condamnation entre 1925 et 1930. Pour Hitler, et finalement il y a un certain parallèle à faire avec Lénine, les États-Unis d'Europe sont impossibles parce que on ne peut pas unifier un continent composé de peuples racialement inégaux, et ils sont réactionnaires entre guillemets parce que c'est porté par le projet hégémonique français et juif international. Donc la position du nazisme est très claire. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, la thématique de l'Europe sera effectivement employée par les offices de propagande nazis, avec une réception parfois illusionnée d'un certain nombre d'intellectuels européens, en particulier en France ou en Belgique. Mais c'est évidemment une autre Europe que celle de Briand qui est proposée. Hein. C'est une Europe effectivement biologique et une Europe hiérarchique et non pas une fédération égalitaire. Mais je le redis encore, il existe une thématique europhobe sur le lien supposé entre les plans européens de la construction européenne et les plans nazis. Rien n'est plus faux que cette association. Alors qui a eu cours et qui a eu un écho important au Royaume-Uni et encore récemment dans la campagne du Brexit, puisque Boris Johnson, par exemple, dans un de ses interviews, a dit « Ben oui, on fait l'Europe comme Hitler en a eu l'idée à une certaine époque. »
Johnson, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Madame May.
Tout à fait. Hein, il l'a dit. Et nombre d'ouvrages de politique fiction en Angleterre qui ont un grand succès dans les années 90 évoquaient cette perpétuation des plans nazis à travers les plans de l'Union européenne. Il faut véritablement déconstruire cette idée.
Portons-nous maintenant vers les années 1950, c'est-à-dire le deuxième grand moment après les années 20 où les efforts ont avorté, deuxième grand moment des politiques conduisant à une construction de l'Europe. Et pour ouvrir ce moment, je vous propose de vous conduire jusqu'à un numéro de la Tribune de Paris, émission très célèbre à l'époque, sur la radio publique, la radio d'État, et nous allons entendre Michel Debré, déjà très méfiant à l'égard de toute construction européenne s'en prenant à la souveraineté du pays, Pierre-Henri Tedjen, démocrate chrétien, ancien grand résistant, et Ernest Labrousse, professeur d'histoire économique à la Sorbonne. Et pour commencer, Michel Debré.
À l'intérieur de l'Europe continentale, les nations, et la nation française, et l'État français en particulier, perdent une liberté d'action qui est la marque de sa personnalité et de son indépendance, au profit d'un ensemble dont elle n'est qu'un élément. Alors que la Grande-Bretagne observe cet ensemble et conserve juridiquement et politiquement toute sa liberté, si bien que le plan Eden est simplement l'affirmation en termes élégants et en formule juridique du maintien de l'indépendance totale de la Grande-Bretagne à l'égard de la petite Europe continentale, d'un petit bloc qui peut à peine prétendre au nom d'Europe, alors qu'en s'intégrant à ce petit bloc, la France perd sa personnalité, son indépendance, ce qui est grave pour sa politique, ce qui est grave même pour la constitution de son Union française.
Monsieur Ernest Labrousse.
Encore une fois, il s'agit tout simplement d'un monstrueux renversement de coalition. D'une coalition nouvelle, encore une fois, où lâchant pied, désertant le camp des démocraties, nous semblons aller vers le camp que nous avons combattu lorsque se posaient pour la France les problèmes de vie ou de mort. Donc nous sommes à peine sortis d'un péril mortel Et voilà que nous allons au-devant de nouveaux périls, avec cette Allemagne contractuelle, avec cette Europe contractuelle dont parle M. le Président Tegen. L'Europe contractuelle. Un contrat signé par une plume allemande. Vous savez, en ce qui me concerne, présente à la mémoire l'histoire toute proche.
Monsieur le Président Tegen.
Mais non, le contrat ne sera pas signé par une plume allemande. Un contrat interviendra entre une Europe intégrée et une Grande-Bretagne qui veut s'associer à son activité, et qui le demande, et qui le souhaite, propose des formules.
Je ne vois pas. Monsieur Debray.
Pourquoi ce qui est bien en ce qui concerne la Grande-Bretagne n'est pas bien en ce qui concerne la France? Pourquoi on considère que la Grande-Bretagne, en demeurant en dehors de l'Europe intégrée, fait son devoir de puissance européenne? Et pourquoi il est nécessaire que la France, pour faire ce même devoir de nation européenne, fasse davantage? C'est une question à laquelle personne encore n'a répondu.
Oh, c'est pourtant bien simple. L'Angleterre n'est pas dans le continent et la France y est.
Non, la France n'est
pas
seulement
dans le continent. La France croit, comme le disait Bidault il y a quelques jours, que le canal l'abrite encore. C'est un tort. Alors que la France est immédiatement voisine. Quand nous franchissons notre seuil, nous rencontrons sur le seuil l'Allemagne.
Je sais bien.
Monsieur Labrosse.
Mais oui, la France est immédiatement voisine, avec toutes ses préoccupations d'Union française, avec la guerre qu'elle soutient au loin. Ce qui m'effraie, voyez-vous, c'est la présence allemande et l'absence française. Ce qui m'effraie, c'est ce jeu international qui est le nôtre, alors qu'au contraire, l'Allemagne peut disposer sur son propre sol et en vue de ses problèmes majeurs, toutes ses forces. Il n'y a pas simplement ce déséquilibre de nombre auquel faisait allusion tout à l'heure Michel Debray. Il y a bien autre chose. Il y a cette guerre d'Indochine, cette guerre extérieure, qui fait que le nombre allemand est plus grave encore qu'il ne le serait d'après l'arithmétique. En réalité, on nous dit « prenez garde au vide allemand dans ce vide d'Europe centrale qui semble comme attirer le danger soviétique ». Bien plus que le vide allemand, c'est le plein allemand qui m'intéresse et que je redoute.
Georges Bidault, qu'évoque Tegen, c'est un des leaders de la démocratie chrétienne, du MRP en France, qui a été président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. On est là, je le rappelle, en 1953. On voit là, de façon parfois subliminale et généralement exprimée, en réalité, la question de la Grande-Bretagne, dedans ou dehors, et la question de l'Allemagne, quel poids elle risque de prendre, si près de l'époque nazie et de la guerre.
Alors oui, nous sommes au cœur de ce qu'on appelait la querelle de la CED. Hein, nous sommes en 1953, elle sera rejetée en 1954, le fameux crime du 30 août, hein, comme on a pu le dire.
Ce sont les acteurs favorables à l'Europe qui ont parlé du crime du 30 août lorsque le président du Conseil, Pierre Mendès-France, avait refusé
de se prononcer.
On l'a souvent oublié, mais c'est important.
Alors ce qui est frappant chez l'intervention d'Ernest Labrousse, c'est quand il parle de ce renversement d'alliance. Hein, l'alliance franco-anglaise, depuis le début du XXe siècle, l'alliance valorisée par la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale et là passer à une coopération, une collaboration entre guillemets franco-allemande et initiée par le plan Schuman de 1950. Alors ça c'est intéressant et ce sera d'ailleurs l'une des façons d'éclairer effectivement l'attitude de Pierre Mendès-France que vous évoquiez à l'instant. S'il refuse de se prononcer et s'il se montre rétif à la construction européenne, il votera contre le marché commun quand même quelques années plus tard, 4 ans plus tard, c'est aussi en raison de l'absence de la Grande-Bretagne dans cette construction. Une Grande-Bretagne qui serait une caution démocratique et parlementaire, et c'est important pour lui, radical, si vous voulez, d'avoir ce contrôle démocratique, cette référence démocratique, dans une construction qu'il juge technocratique et supranationale.
C'est important pour nous qui savons que la Grande-Bretagne a été pendant plusieurs décennies, depuis les débuts des années 70 jusqu'aujourd'hui avec le Brexit, à l'intérieur de l'Europe.
Tout à fait, depuis 1973, mais là, elle avait signifié son refus dès 1950. Et ce refus, c'est étonnant chez Ernest Labrousse de considérer finalement le ressort du plan Schuman-Monnet. En fait, on construit l'Europe pour régler définitivement la question franco-allemande. En fait, l'Europe est l'instrument de l'apaisement définitif de la querelle franco-allemande.
Labrousse, qui est proche du socialisme, incarne là une méfiance.
Une méfiance qui va diviser la SFIO en deux parties quasiment égales lors de ses votes à ce moment-là.
On a oublié à quel point Mendès-France avait été réticent envers l'idée de la construction et même du marché commun. En janvier 57, c'est-à-dire 2 ans après avoir quitté le pouvoir, avoir été renversé à l'Assemblée, il dit « l'abdication d'une démocratie peut prendre 2 formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel ». Ça, c'est déjà un peu à l'avance le général de Gaulle qu'il combattra si farouchement, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique,
C'est important la technique. Exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot. On retrouve là le grand débat des relations entre les forces économiques d'un côté et la politique qui, aux yeux d'un Mendès France, doit continuer à surplomber les jeux du marché.
Alors c'est effectivement, chez Pierre Mendès France, la peur et la hantise de voir l'État modernisateur, tel qu'il a fonctionné dans la France de l'après-guerre, dans le cadre des Trente Glorieuses et de la Reconstruction, se voir enlever sa liberté de décision, hein, et se voir dans le domaine économique par un pouvoir supranational.
Plus la rémanence d'une inquiétude envers l'Allemagne, qui est le fait de beaucoup de ces grands résistants, dont était Mendès France lui-même.
Voilà, hein, on pourrait évoquer aussi, ben on l'a évoqué, Debray, Charles Hernu, etc. Nous avons là tout un réseau de hauts fonctionnaires, de politiques, effectivement forgés dans la socialisation qui s'est faite dans le cadre de la résistance, qui sont, nous sommes 8 ans, 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut peut-être l'expliquer. Très intéressant chez Mendès France, l'opposition qu'il fait entre techniciens et politiques, technique et politique. Hein, l'Europe, c'est une affaire de technique, on cherche des solutions, alors que la politique, c'est la décision, c'est le vote.
Et on retrouve ça jusqu'au qu'aujourd'hui.
Tout à fait. On évoquait tout à l'heure le texte de Lénine qui a une carrière au XXe siècle. Plus modestement peut-être, ce discours de janvier 1957 que vous évoquiez va faire aussi carrière et on le retrouvera notamment en 2005, hein, présenté par extrait dans des réseaux d'opposition au traité constitutionnel européen en disant, vous voyez, Mendès France avait tout dit déjà sur ces techniciens qui volent la souveraineté en fait économique de la France.
La CECA a lancé la Communauté européenne du charbon et de l'acier lancée par Schuman, qui a été le vrai coup d'envoi de la construction européenne au début des années 50, a rencontré dans les milieux patronaux, dans les milieux d'affaires, comment dire, des sentiments très mêlés. Il y a eu des adversaires, notamment du côté des maîtres de forge, à l'idée de constituer un marché commun déjà du charbon et de l'acier, ce qui peut conduire à une réflexion sur l'ambivalence du comportement des milieux d'affaires de génération en génération envers l'Europe et la permanence d'hostilité.
Oui, on a souvent accusé l'Europe d'être une Europe des affaires, hein, d'être construite pour des capitalistes, hein, pour le big business. Hein. Lorsqu'on revoit les années 50 et encore le début des années 60, c'est beaucoup moins vrai, hein, qu'on ne le pense. Beaucoup de patrons se sont effrayés de cette concurrence, notamment chez les chirurgistes, mais aussi chez les patrons de l'industrie textile et du coton en particulier, qui étaient habitués à des marchés protégés dans l'espace colonial, notamment. Et puis alors l'opposition de certains, de ceux les plus libéraux d'entre eux, qui parlaient en termes de monde et non pas en termes seulement européens. Alors le patronat va se convertir très rapidement effectivement à l'Europe sous l'influence du CNPF qui fera une opération là, de conversion importante, mais entre 51 et la fin des années 50, tous les patrons ne sont pas des europhiles.
Cette adhésion d'ailleurs provoque en face du côté de la gauche des méfiances. On retrouve les méfiances envers Jean Monnet. Et précisément, on l'accusait d'être à la fois internationaliste. Il avait été très proche des États-Unis d'Amérique pendant la guerre, de la Première Guerre mondiale déjà, et d'agir non seulement par les élites exclusivement, mais au profit d'une Europe du grand capital, pour reprendre l'expression fameuse de Georges Marchais et de quelques autres.
Il a polarisé tous les rejets, toutes les haines d'une certaine façon. Hein. Pour les gaullistes, c'était un atlantiste.
L'inspirateur, disait
voilà.
De Gaulle.
Pour les communistes, évidemment, c'est un proche des États-Unis, etc., et un banquier. Et pour l'extrême droite, c'était un cosmopolite et aussi un financier international. Donc, il a polarisé tous les rejets. Et c'est intéressant de voir. Alors, comment le Monnet est devenu aussi un mythe dans la construction européenne, hein, comment il a été panthéonisé, etc. Et comment donc il cautionne d'une certaine façon, son mythe cautionne la construction européenne des années 80-90.
Il est au Panthéon.
Oui, et comment on voit justement le rejet de Monnet et la critique de Monnet ressurgir dans les années 90-2000 même. On associe à Monnet évidemment, le fonctionnement de l'Union européenne telle qu'elle. Ce qui est en parti faux, puisque l'Union européenne, quand même, s'est largement politisée et démocratisée par rapport au projet de monnaie initial.
Notamment par le Parlement européen.
Exactement, par l'émergence du Parlement européen, l'initiative citoyenne aussi. Et alors que Monnet, au début, concevait surtout une haute autorité, hein, assez technicienne, pour ne pas dire technocratique. Donc on rejette sur Monnet, en fait, aujourd'hui, des fautes de Lully qui sont tout à fait inventées.
Il y a un homme dont les variations à ce sujet sont éclairantes, peut-être, c'est Jacques Chirac, puisqu'il a à la fois été le parangon d'une hostilité éclatante, le fameux appel de Cochin de décembre 1978, jusqu'à la défense, plus ou moins habile d'ailleurs, du oui au référendum sur la Constitution européenne de 2005. Je voudrais, Bernard Bruneteau, que nous terminions sur ce cas particulier, car il concentre, me semble-t-il, au moins un temps, beaucoup des arguments de ces europhobes que nous avons considérés ce matin.
Alors, Jacques Chirac, il gère ce qu'on appelle le néo-gaullisme, hein, à partir des années 80, des années 70, puis 80. Et donc, comment faire exister ce néo-gaullisme au sein de la droite française? Comment ne pas se banaliser au sein de la droite française, d'abord de la droite giscardienne et libérale, qui est européenne, justement, et peut-être atlantiste. Et donc, l'hostilité à l'Europe est une ressource politique, je crois, stratégique, à un moment donné, pour le parti gaulliste, et notamment pour le clan des gaullistes intransigeants qui vont un peu manipuler, qui vont instrumentaliser Jacques Chirac à la fin des années 1970, pour se démarquer radicalement de cette droite libérale pro-européenne. D'où l'appel de Cochin, qui est écrit en quelque sorte par Marie-France Garraud et Pierre Juillet, qui sont les acteurs de ce gaullisme intransigeant.
Cochin, parce qu'à ce moment-là, Jacques Chirac a eu un accident de voiture et est à l'hôpital Cochin. Voilà, nous allons nous en tenir là. Après cet inventaire des divers courants de l'europhobie, de l'hostilité à la construction européenne, souvent contradictoire, je pense que nos auditeurs et nos auditrices, suivant leurs préférences, pourront y aller faire leur marché ou au contraire considérer que ces contradictions même, indirectement, portent positivement cette construction européenne dont le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, s'est fait le porte-parole efficace pendant la dernière campagne présidentielle. Bernard Bruneteau, votre livre sur lequel j'ai largement fondé notre conversation s'appelle « Combattre l'Europe », de Lénine à Marine Le Pen. Il vient de paraître aux excellentes éditions du CNRS. Je voudrais mentionner aussi la réédition du livre très utile de Sylvain Kahn qui s'intitule « Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 ». Paru aux presses universitaires de France. Vous avez donné en deux volumes une histoire européenne à travers les textes, du premier XXe siècle au second XXe siècle, chez Armand Collin. Et puis, je citerai également votre ouvrage. Nous avons évoqué les tenants, les partisans de l'Europe nouvelle, entre guillemets, pendant la conquête nazie, les collabos de l'Europe nouvelle, également au CNRS édition dans la collection Biblis 2016. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous le savez, retrouver une bibliographie complète, plus complète encore sur notre site avec les références et documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je vais peut-être vous surprendre, peut-être pas, nous parlerons des relations entre l'homme et le chat. Un dialogue immémorial avec Éric Baratet. Et lundi matin, dès 9h, vous pourrez retrouver la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine à l'anniversaire de mai 1968 où il s'est passé, comme vous le savez sûrement, un certain nombre d'événements dignes d'être considérés. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec l'indispensable appui de Nathalie Lempereur et de Jeanne Guéroux, réalisée par Anne Kobilac, avec Bernard Laniel à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Inès Barja pour les archives de l'INA. Et dans quelques instants, voici Christine Ockrent pour Affaires étrangères.